Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont de passage, bienvenue à ceux qui sont là régulièrement, bienvenue aussi à ceux qui sont étrangers, cette maison est aussi la leur. Bienvenue à tous, c'est Dieu qui nous accueille maintenant. Debout, le Seigneur vient. Une voix prophétique a surgi dans le désert, un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Debout, le Seigneur vient, la parole s'infiltre, elle ébranle nos cœurs et voici le royaume, il s'approche, il est là, réveillons-nous. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte. Nous ne sommes pas en représentation, il n'y a rien à cacher, rien à montrer, rien à prouver, il suffit d'être là, gratuitement et de se laisser faire. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel. Nous louons l'Éternel. Seigneur, je te loue au petit matin quand le jour apparaît. Je te loue à midi, à l'heure où je reçois la nourriture. Je te loue le soir, n'as-tu pas guidé mes heures. La nuit, je te loue, tu es lumière dans l'obscurité. Ô Père, ma première prière vers toi est de louange. Mon premier mot, merci. Tu es ma joie, ma mémoire, ma confiance. Je pense à toi, j'apprends que tu es ma source et mon espérance. Je te parle, tu me libères de mes peurs. Tu m'ouvres les yeux pour voir et les lèvres pour chanter. Et je vous invite à prendre au psaume 24, les strophes 1, 2, 3 et 4.
Et donner vie à son empire.
vous pouvez vous asseoir. Nous écoutons maintenant comment Dieu veut être servi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et les tiens, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Amen. Nous confessons notre péché. Seigneur, en ce dimanche où nous attendons ta venue, toujours, nous voulons t'exprimer notre regret d'avoir obscurci ta présence lumineuse au milieu de nous et de ne pas te permettre de rayonner pleinement ton amour. Ta venue en ce jour n'est point nouvelle, car tu es parmi nous depuis la création de ce monde, dans lequel tu étais venu pour nous et vers nous. Oui, Seigneur, tu nous éclaires depuis toujours, et nous ne cessons par notre aveuglement de nous cacher, de te cacher et de te renier. Nous cherchons ta guérison et ta libération, et nous nous approchons de toi. Puisse ce moment de commémoration de ta présence au milieu des humains que tu aimes tant nous laisser éclairer de nouveau par toi. Puisse ce temps nous engager plus avant, tout au fond de nous-mêmes, dans la recherche d'un renouveau, afin que nous ne nous laissions pas emporter par le tracas des jours, mais que nous reflétions la lumière que tu es dans nos maisons, nos lieux de service et dans nos communautés de foi. Amen. Nous écoutons maintenant les paroles de pardon de la part du Seigneur. Lorsque nous sommes découragés par nos erreurs, Dieu non seulement nous appelle à une nouvelle vie, mais nous donne également le courage de débuter encore, encore, encore et encore. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et la joie de vivre en sa présence. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et je vous invite à vous lever.
En tout ce que tu fais, et combien tes hauts faits sont dignes de mémoire, on réjouit mon cœur et
Pardonnés et libérés, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, qui a créé le monde pour que nous le cultivions et célébrons sa beauté. Il est source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis son autorité à Jésus-Christ, le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance et la présence de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, que ces textes que nous allons lire soient pour nous maintenant paroles de vie. Alors tout d'abord, je lirai pas tout à fait les textes du jour, en tout cas pour ce qui concerne la Genèse, mais une petite mosaïque de textes autour de la création du monde, c'est-à-dire dans Genèse 1 et Genèse 2. Tout d'abord, dans Genèse 1, le verset 31, « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la sixième journée. » Ensuite, un peu plus loin, toujours au chapitre 2, les versets 21 à 23, « Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, du même sang que moi. » Et puis encore plus loin, toujours dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, pardon, les versets 6 à 10, la femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier, ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur, car je suis nu. » Et je me suis caché. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, ensuite, c'est un texte du jour, un texte un peu difficile. J'essaierai d'en tirer quelques leçons intéressantes. Au chapitre 2, les versets 5 à 18. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a donné autorité sur le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, dans un passage de l'Écriture, quelqu'un déclare « Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui ? Tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges ? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur ? Tu as tout mis à ses pieds ? Si Dieu a tout mis sous l'autorité de l'homme, cela signifie qu'il n'a rien laissé qu'il ne lui soit pas soumis. Cependant, nous ne voyons pas que toutes choses sont actuellement sous l'autorité de l'homme. Mais nous voyons ceci. Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure en faveur de tous les humains, et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 216, les strophes 1, 2 et 3. Ô Dieu éternel, tes mots sont la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à ta sagesse. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Il m'arrive, et veuillez me pardonner d'être un peu troublé, parfois agacé, et ce n'est pas chrétien, j'en suis conscient, par notre insistance dans nos propos théologiques et même nos prédications à mettre en avant trop souvent l'affirmation centrale de la foi protestante, la justification par la foi, le pardon inconditionnel du péché, la gratuité du salut, affirmation par ailleurs totalement paulinienne et en accord parfait avec les évangiles. Bien sûr, il était indispensable au temps de la Réforme et certainement encore aujourd'hui de libérer les corps et les âmes des carcans de culpabilité qui enfermait les croyants. Il était temps de remettre debout, de relever ces peuples christianisés, ces hommes et ces femmes, qui enfermés dans un ritualisme étouffant et une comptabilité mesquine, cherchaient la certitude d'un salut dans l'au-delà comme récompense ou compensation des tribulations d'un ici-bas effrayant et brutal. Mais voilà, aujourd'hui quand même, j'ai envie de le dire, les fondements de la Réforme, nous les avons assimilés, nous en avons fait notre pain quotidien, et la question qui se pose à nous n'est plus celle du salut gratuit, du regard infiniment bon et miséricordieux de Dieu sur nos vies personnelles, mais bien plus, qu'en faisons-nous? Qu'est-ce que cela change? Non pas seulement dans notre vie intime, mais dans nos vies avec les autres, dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre cité, dans nos comportements professionnels, dans notre manière d'exercer une citoyenneté loyale, mais aussi critique. En un mot, ces affirmations centrales de la foi de nos antiques prédécesseurs, relayées par les pères fondateurs de la Réforme, ne doivent-elles pas s'en succomber à un nouveau moralisme stérile, régressif et infantilisant, susciter une éthique, c'est-à-dire un horizon de vie qui oriente sans cesse notre manière de regarder, de parler et d'agir avec toutes celles et tous ceux qui croisent nos routes. Je le redis donc, être justifié par la foi, en fait, c'est vivre selon une éthique personnelle qui éclaire toutes les dimensions de la vie, de nos vies, familiales, professionnelles, citoyennes et paroissiales, bien sûr. Aussi, par-delà, ou plutôt à cause de nos convictions intimes, être chrétien, c'est aussi entrer dans une forme de vie. Et j'oserais le dire, une règle de vie, pour reprendre l'expression du philosophe italien Giorgio Agamben, qui n'apprécierait pas que je le qualifie de crypto-chrétien. Giorgio Agamben, dans son livre intitulé « La très haute pauvreté », nous initie à ce projet de saint François d'Assise d'inaugurer une vie où la règle, loin de se scléroser dans une codification tatillonne de la vie quotidienne du moine, la règle est une école de libération où l'esprit de charité, d'agapé, infuse la vie pour en faire une sorte d'icône de ce que bien plus tard Dietrich Bonhoeffer appellera « suivre Jésus-Christ ». Alors ce matin, c'est à propos de ce que j'ai envie d'appeler une première marche vers cette forme de vie à laquelle nous sommes appelés, que je vais essayer de nous éclairer, et ceci en me penchant sur deux textes, les textes que nos listes de lecture nous ont proposés aujourd'hui. Et au passage, j'ai envie de rappeler à quel point le texte, en général, les textes bibliques auxquels, à juste titre, nous sommes très attachés, sont, ne soyons pas dupes, un prétexte pour éclairer nos chemins. Le pasteur Louis Simon, décédé cette année, qui, il y a 50 ans, nous enseignait occasionnellement l'art de la prédication, nous disait toujours « il faut partir du texte ». Et dans un geste signifiant le revoir, l'adieu, il redoublait son propos en disant « partir du texte ». Ce matin, je vais donc partir de ces deux textes. L'un, les uns de la Genèse, l'autre dans l'Épître aux Hébreux. Mais avant tout, un petit mot sur l'Épître aux Hébreux. Je trouve heureux que ses destinataires soient un peu mystérieux. J'évoquais à l'instant le mot « partir », et justement ces Hébreux, si je peux les qualifier ainsi, sont avant tout un peuple toujours en partance. En partance pour prendre dans une audace toujours renouvelée le risque d'être les porteurs de bonnes nouvelles quand tout va mal. Un peuple qui, pour reprendre l'expression du philosophe Paul Virilio, à la peur absolue oppose toujours l'espérance absolue. C'est vos Hébreux, c'est nous, ce sont tous ceux qui, devant les abîmes qui nous menacent, proposent et incarnent une espérance absolue. Tous ceux qui, au cœur des étouffements que nous constatons, indiquent et pose les signes d'un monde nouveau face aux monstres qui surgissent quand l'ancien monde disparaît. Alors revenons au texte. Tout d'abord, celui de la Genèse. Ce qui me frappe dans ce début de la Bible, c'est bien entendu l'importance de la parole. Dieu parle et tout arrive. Mais aussi important, c'est le regard qui est présent. Dieu dit, certes, mais ensuite, il voit. Il voit sa création, bonne et même très bonne. Et cela à 7 reprises. Et un peu plus loin, dans cette version seconde de la création, Adam s'extasie en voyant sa compagne, laquelle compagne d'ailleurs va voir avec bonheur ce fruit défendu et convaincre Adam de consommer avec elle. Et ici, mesdames, ne voyez aucune misogynie dans cette lecture. Je fais partie de ces lecteurs hérétiques qui pensent que ce texte aurait pu être après tout écrit autrement et que c'est Ève à qui une côte aurait pu être enlevé pour qu'Adam paraisse. Mais un peu plus sérieusement, quelques versets plus loin, le couple se voit tel qu'il est. Découverte surprenante, puisqu'elle l'entraîne à se camoufler derrière quelques habillages qui limitent le regard, et puis surtout plus loin, le couple se cache pour ne pas être vu. Donc, vous le voyez, dans ces récits que de lointains Hébreux ont rédigés, le regard occupe une place centrale. Ainsi, pour être plus précis, j'ai le sentiment que ces textes veulent nous indiquer que deux regards sont possibles. Il y a tout d'abord ce regard bienveillant, heureux, paisible et confiant, qui s'offre à nous comme Dieu se l'est offert à lui-même quand ce qui nous entoure, notre environnement, est reçu comme un don qui peut conduire à une très grande joie, celle de Dieu devant sa création et celle de l'homme ou de la femme quand autrui, l'autre, se présente à lui. Et quand j'emploie le mot environnement, je ne veux pas simplement parler de la nature que nous avons saccagée depuis, mais de tout ce qui fait notre vie avec toutes et tous. Et puis, il y a ce regard vite inquiet, vite apeuré, qui en quelque sorte provient d'un refus de cette joie, comme si on ne pouvait pas vivre dans la confiance. La peur est très présente aussi dans ces textes, vous l'avez remarqué. Visiblement, elle se montre avec beaucoup de force dans ces récits de commencement. Et cette peur, bien sûr, invivable, il va falloir la conjurer. Et pour la conjurer, il va falloir peut-être s'aveugler. Puisqu'on a perdu ce regard confiant sur ce qui nous était offert, il va falloir se fabriquer un monde à notre disposition, un monde qui n'est plus cet aboutissement d'une œuvre belle et bonne, mais une espèce de construction malaisée que l'homme se donne à lui-même pour en faire sa propriété dont il peut user et abuser sans limite, sans parvenir d'ailleurs à écarter cette peur qui va désormais être sa lancinante compagne dans une histoire qui l'oblige à vouloir toujours se dépasser dans le secret espoir de prendre la place de celui qui a tout donné. Et au passage, j'ai aussi envie de dire que cette histoire est une histoire de cache-cache. Il s'agit de cacher quelque part ce que nous n'avons pas voulu voir. La beauté d'un monde offert, la bonté d'une rencontre avec l'autre. Pour en faire cette espèce de monde concentrationnaire où il ne s'agit plus de se voir, de se regarder, mais de se surveiller, de peur qu'un plus grand malheur arrive. C'est aussi, j'ai envie de dire, une histoire de vêtements, de costumes. La nudité symbolique, innocente et joyeuse, nous a paru trop brûlante pour être acceptée telle qu'elle, trop heureuse, trop simple pour être vraie. Quelque part, il y avait un piège, a dû penser Adam comme nous. Ainsi, nous n'avons cessé de nous revêtir et de revêtir la création de costumes, de masques, d'artifices de toutes sortes pour nous donner un semblant de sécurité. Et cette quête de sécurité que Jacques Ellul qualifiait de grand bluff technologique, voilà qu'elle atteint des sommets aujourd'hui. Je prends cet exemple, Adam et Ève, dans leur peur, s'étaient camouflés derrière quelques feuilles de je ne sais quel arbre pour survivre péniblement. Et nous en sommes aujourd'hui, nous, à vouloir nous habiller avec cette peau de l'homme augmenté que nos savants, à la demande de nos militaires, fabriquent avec une araignée mutante croisée avec un ver à soie qui produit un fil mille fois plus solide que le plus solide des aciers, de telle sorte que rien ne peut la détruire. De la peur à la protection, l'homme devient lui-même revêtu de cette cuirasse, un bunker qui s'enquiste dans une solitude, qui ne peut pas regarder le monde et ceux qui l'habitent autrement que comme des ennemis dont il faut se protéger. Au-delà de cette image, de cet exemple, nous voyons bien que cette aventure malheureuse, avec ces murs qui se dressent entre nous, entre les peuples, avec ces mégapoles déshumanisées à l'image de Babel, ces radars qui surveillent nos mers, peuplés de frères et sœurs qui appellent au secours, ces caméras qui se multiplient, font de chacun de nous un monde intouchable, dont le regard dénaturé conduit au désespoir et à la ruine. Mais ce monde-là craquelle et de nouveaux regards s'inaugurent. L'aveuglement qui était le sien n'est pas le dernier mot de notre marche. Le peuple qui marche dans les ténèbres ne cesse de voir une lumière qui n'est bien sûr, vous vous en doutez, ni celle de la longue marche de Mao Tse-Tung, ni celle des marcheurs qui occupent notre actualité politique. Excusez la facilité du propos, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais cette lumière, c'est celle de Jésus-Christ, le nouvel Adam, qui incarne à lui seul, mais pour tous sans exception, sans discrimination, ce regard clair, sans détour, sans mensonge, sans hypocrisie, qui à tout moment peut refonder le plaisir, la joie, le bonheur de vivre ensemble dans une fraternité paisible, qui met à bas nos aveuglements et nous redonne cette liberté perdue. Une liberté qui, délivrée de la peur et des efforts prométhéens pour la conjurer, qui conduisent au désastre, s'offre à nous gratuitement. Et nous retrouvons ici, heureusement, le message de la réforme auquel il faut nous arrimer. Alors, frères et sœurs, il y a encore ce texte, ces quelques versets de l'Épître aux Hébreux, d'un auteur inconnu à des destinataires inconnus. Quelle chance ! Aucune exégèse ne pourra nous en dire le contexte. Alors, considérons que ce texte s'adresse à nous, Hébreux, du XXIe siècle, à Paris. Son auteur est parmi nous. Il est notre contemporain et lui aussi nous parle de regard. Que nous dit-il ? Justement, il nous dit que le réel n'est pas ce que, dans notre aveuglement, nous nous sommes donnés à voir. Il nous dit que nous pouvons regarder le monde autrement, que nous pouvons cesser d'être complaisants avec l'insupportable, l'intolérable, l'inadmissible qui se présente à nous. Il nous dit qu'il y a une autre réalité que ces illusions, que ces propos et ces pratiques mensongères dictées par un soi-disant sens des évidences, qui nous empêchent de regarder, de voir qu'un autre monde est possible et que même il est là, malgré les frilosités et les peurs qui nous tenaillent. Il n'est pas vrai que la croissance soit la clé du bonheur. Il n'est pas vrai que l'autre est menaçant. Il n'est pas vrai que chacun doit faire ses preuves pour avoir une vie digne. Il n'est pas vrai que chacun a ce qu'il mérite. Il n'est pas vrai que nous devons protéger notre identité contre une invasion d'étrangers. Ce que nous constatons, dit l'auteur de cette épître, ne peut pas être ce renoncement mortifère qui nous interdit de voir le monde comme un monde, comme un don gratuit et parfait pour le bonheur de tous. Ce que nous voyons, ce que nous constatons, nous dit le texte, ce que nous devons regarder comme l'ultime réalité, le socle inaltérable de nos vies, c'est cette perfection à laquelle nous pouvons être conduits lorsqu'à la suite de l'homme véritable, nous reprenons pied et par-delà nos peurs, nous redevenons témoins de celui qui sans cesse nous libère. En changeant de regard, nous changeons le monde. et nous le voyons tel qu'il nous a été offert et tel qu'il nous a toujours été promis. Et ainsi, nous pourrons dire et faire en sorte que sa réalité s'impose contre toutes les fausses évidences qui nous ont dominés. À ce corps désarticulé qu'est devenu notre monde, dépassé par les excès d'une rationalité déraisonnable et désincarnée, un regard peut redonner de la chair, un regard peut redonner vie à ces ossements qui se dessèchent. De même qu'il y a des regards qui tuent, il y a des regards qui font vivre. Ainsi, ce regard neuf, en premier lieu, nous conduit à cette première marche d'une forme de vie renouvelée. Renouvelée parce que éclairée par cette confiance dans un avenir différent, mais déjà inauguré. À la sombre banalité du mal auquel nous nous soumettons peut se substituer l'évidente clarté du bien donné à profusion. À l'imagination au pouvoir, malheureusement sans lendemain, qu'avait proclamé mai 68, nous pouvons substituer l'imagination au service de tous que ce nouveau regard peut susciter. Il s'agit désormais de témoigner de cette réalité, alors que dans une course folle, notre monde frôle l'abîme. Libérer nos imaginaires pour toujours mieux nous servir les uns les autres et servir ce monde douloureusement en attente n'est pas vain. Il n'est pas vain de croire que de ci de là surgissent des lieux et des temps où la justice remplace l'exploitation, où la fraternité remplace l'oppression, où le partage remplace le pillage, où la dignité remplace le mépris, en un mot, où la vie en abondance remplace les puissances mortifères. Comme le proclamait la mission populaire lorsqu'en 1929, la crise mondiale se répandait avec les conséquences que l'on sait, et comme le dit plus près de nous l'Église protestante unie de France en 2013, dans son premier synode, lorsqu'elle nous interpelle pour que nos regards changent et suscite ainsi dans une éthique de l'espérance des paroles et des gestes refondateurs d'une annonce de bonnes nouvelles dans ce monde et pour ce monde. Voir clair pour parler vrai et agir juste, cela commence bien entendu dans nos vies quotidiennes, mais bien plus dans notre vie commune d'Église envoyée, où chacun de nous est reçu et reçoit comme une sœur ou un frère celui qui est à ses côtés, parce que c'est ainsi qu'il le regarde. Il m'est arrivé parfois ici de parler d'insurrection de la parole vive contre tous les faux dieux qui nous assaillent. Ce matin, j'ai envie de vous parler de transfiguration. Loin de toutes les illusions qui nous promettent un monde transhumain, où les uns, dans un sauf qui peut égoïste, se calfeutrent dans leur confort au détriment des autres qui n'y ont pas accès, laissons-nous transfigurer par ce regard que Dieu a posé sur sa création et celles et ceux qui l'habitent. Un regard qui nous invite à nous arrêter dans cette course folle et tout simplement à nous regarder les uns les autres en laissant tomber les masques, en nous recevant comme des frères et sœurs, prenant soin les uns des autres. Car, comme le disait Dietrich Bonhoeffer en 1939, au futur pasteur du séminaire clandestin de l'Église confessante à Finkenwald, « Souviens-toi que lorsque ton regard croise celui de ton frère, le regard du Christ, ton Seigneur, est présent. C'est lui qui, vous regardant l'un et l'autre comme mort au péché, vous guide et vous conduit dans cette communion fraternelle qui construit la communauté des témoins. » Fin de citation. Alors, en voyant l'amour qui vous unit, le monde verra son salut. Qu'il en soit ainsi, que cela soit notre joie. Amen. Merci à Sarah pour cette interprétation de l'hymne à la joie. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 297, les strophes 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez vous asseoir. C'est maintenant le temps des annonces. Donc.
Bonjour à tous. Un grand merci au pasteur Jean-Pierre Rive pour le culte et la prédication de ce matin. Votre voix sévenole remplit puissamment ces voûtes. Et son écho est sensible dans nos cœurs. Merci Jean-Pierre, merci pour tout ce que vous apportez, vous et votre foyer, à l'oratoire. Quelques informations, donc vous avez entendu que c'est Sarah Kim qui est à l'orgue aujourd'hui. Les activités de la semaine à l'oratoire, nombreuses. Les langues, le chant, l'instruction, la découverte intellectuelle et philosophique, et puis bien sûr dimanche, le culte. Mais tout de suite, d'abord, après le culte, il y a le déjeuner du premier dimanche du mois qui se déroule Salmono. Et il m'est dit que même si vous ne vous êtes pas inscrit, il reste des places et que donc vous êtes les bienvenus. Voilà. Il faut savoir que ce moment convivial est préparé en ce moment par une équipe qui est Salmono, qui dresse la table, qui prépare une cuisine qui n'est pas une cuisine d'assemblage, mais qui est une cuisine aimante. Et donc, venez lui faire honneur. Pour les langues, eh bien, d'abord pour le grec biblique, donc c'est le grec des évangiles. Demain, lundi, à 19h30, salle Verne, il y aura le cours pour les progressants avec Aurore Mériot, donc de 19h30 à 21h. Mercredi, le cours pour les avancés à 14h30, de 14h30 à 16h30. C'est salle Verne également. Et c'est Edith Lounès qui est le professeur pour ce cours. Jeudi, à 19h30, le grec pour les débutants avec Sarah McVen, pardon, j'ai un petit trou, excusez-moi Sarah. Donc c'est à 19h30 jusqu'à 21h et c'est salle Roberti. Pour le chant, le chœur, avec à la baguette Fabien Aubé, deux répétitions cette semaine, une qui se déroulera jeudi à compter de 19h30, à compter de 20h, et c'est dans le temple, ici, suivi à 21h30 d'une deuxième répétition, Salmono. Et samedi, de 10h à 17h, une répétition pour préparer le culte du lendemain. Nous allons y revenir. Voici pour le chant. Mardi soir, une conférence, la société en débat. Il était prévu que Christian Portal soit le conférencier pour cette soirée. En fait, son intervention est reportée au mois de novembre. Et donc, nous accueillerons le docteur Véronique Lefebvre des Noëttes, qui est psychiatre à la PHP, qui est spécialiste du grand âge, docteur en philosophie pratique et en éthique médicale, et qui interviendra sur le thème de Alzheimer. Qu'est-il encore possible de faire quand il semble qu'il n'y ait plus rien à faire ? Cette soirée s'annonce passionnante. Elle est destinée à repousser des limites. Et donc, nous vous y invitons cordialement. C'est Salmono, c'est à 20h. Et l'entrée est bien sûr libre. Dimanche prochain, culte à 10h30. Mais préalablement, vous êtes tous conviés à venir chanter dès 9h30 pour s'entraîner avec le chœur qui participera au culte et répéter les cantiques qui seront chantés au culte à 10h30. Donc à 10h30, le culte avec le pasteur Béatrice Cléromazir. Il y aura ce jour-là également l'instruction religieuse, l'éducation biblique pour les enfants qui seront accueillis de 10h30 jusqu'à 16h. Et puis après le culte, il y aura un pot d'accueil et se déroulera également à partir de midi l'après-midi de l'oratoire, de midi à 15h, où on déjeune avec un repas sorti des sacs, et puis ensuite on va se promener au Louvre ou dans Paris. Voilà les informations que nous voulions porter à votre connaissance. J'oubliais juste quelque chose, c'est concernant les cours d'hébreu. Le cours d'hébreu pour les commençants, avec Gilles Castelnau, est habituellement le samedi matin. Mais samedi prochain, il n'y aura pas de cours d'hébreu, mais le samedi suivant, à 10h le matin, il y aura le cours d'hébreu habituel. Voilà, très bon dimanche à tous et bon appétit si vous venez au repas. Ah oui, pardon, il me revient d'annoncer la collecte. Je ne devrais pas oublier.
Merci Seigneur pour cette offrande qui permet à l'Église de vivre et à continuer sa mission. Amen. Je vous invite à vous unir dans l'intercession. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il faut. Viens toi-même en nos cœurs intercéder par ton esprit. Pour nos familles, nos amis, pour tous ceux qui souffrent, les pauvres, les isolés, les prisonniers, les exilés, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve, la maladie, la guerre, la famine, ou dont la foi chancelle, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans le bonheur, pour ceux qui nous ont demandé le soutien de notre prière, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui nous gouvernent, pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans notre pays, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions, Seigneur. Pour notre paroisse, pour la communauté fraternelle où tu nous adresses ta parole, pour tous ceux qui exercent un ministère parmi nous, pour le témoignage de l'Évangile, nous te prions, Seigneur. Pour l'Église universelle, pour sa fidélité et sa vigilance dans l'attente du royaume, pour l'unité de ton corps, nous te prions, Seigneur. Et toutes nos prières, nous les rassemblons en nous levant et en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Je vous invite à entendre l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Façonné par la parole du Seigneur, passez au crible de sa passion et désormais revenu de toute peur, disciple de Jésus-Christ, pour son Église, vous êtes pierre de fondation, dont rien n'ébranle l'assise. Mais de vous, il fait encore ses ouvriers. Il se remet lui-même en vos mains. Lui, l'architecte, le maître du chantier, devient la pierre d'angle qui vous porte, pierre vivante et pain quotidien pour qu'il annonce et la porte. Quelle ivresse pure et sobre vous surprend, quelle folie d'amour et de feu, quelle sagesse plus folle que le vent. L'Esprit souffle sur vous, hommes et femmes du large. Recevez le désir de Dieu et relancez votre marche. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous garde. Allez et demeurez dans la paix de Dieu. Amen.